Objectif Startup, l'émission qui décrypte l'univers des startups. Présentée par Bérénice Deville sur Cowork la radio.
Et bonjour, bienvenue sur Cowork la radio, bienvenue dans Objectif Startup, la nouvelle émission qui décrypte l'univers des startups. Donc chaque semaine, je reçois le fondateur d'une startup qui nous raconte la genèse de son projet, comment lui est venue l'idée, le déclic qui l'a poussé à devenir entrepreneur. Mais aussi les obstacles, parce qu'il y en a. Aujourd'hui, je reçois Yacine Chiki, fondateur et président de Active Corner. Bonjour.
Bonjour Bérénice, merci beaucoup de m'avoir invité.
Bah, avec plaisir. Alors déjà, comment ça va? Ravi, content d'être là.
Ça va plutôt très très bien, donc très content d'être là aussi.
Oui, alors présentez-nous déjà votre start-up Active Corner. Ça tourne autour du sport, mais je vous laisse...
C'est le sport et au-delà du sport. Donc Active Corner, c'est un service d'accompagnement des entreprises sur des sujets de bien-être dans le sens large. Donc dans le bien-être, il y a le sport, il y a la remise en forme, il y a se dépenser, il y a la cohésion. Donc il y a énormément de sujets dans le bien-être. Et l'idée d'Active Corner, avant tout, c'est de proposer une solution qui soit la plus exhaustive possible. Aujourd'hui, dans l'entreprise, vous avez des profils très différents. Des profils certes sportifs, mais des profils sédentaires, oui. Des profils nomades, des personnes âgées, des personnes avec des pathologies. Et l'idée d'Active Corner, c'est de dire on va accompagner l'ensemble de ces collaborateurs et on va surtout les accompagner où qu'ils soient. Donc, qu'ils soient sur leur lieu de travail, bien sûr, mais aussi en dehors de leur lieu de travail et aujourd'hui aussi au domicile, puisqu'il y a beaucoup de télétravail et qu'il faut aussi des solutions pour ça.
Donc B2B.
B2B et du coup B2B2C, puisque l'entreprise souscrit à nos solutions et les bénéficiaires finalement, ce sont les collaborateurs.
D'accord. Et du coup, alors comment ça s'est passé déjà, depuis quand existe cette start-up Active?
L'activité a commencé il y a 5 ans maintenant. D'accord. Donc le produit est sorti, donc on a commencé à développer le produit en 2016, fin 2016. On l'a commercialisé en 2017. Donc voilà, on a commencé à avoir nos premiers clients mi-2017. On a eu nos plus gros clients début 2018. Et voilà, et après les choses se sont enchaînées.
D'accord. Et du coup, vous avez vécu le confinement, le télétravail. Est-ce que vous avez dû vous réinventer?
Alors, le télétravail a été pour nous un changement du tout au tout. Il faut comprendre en fait ce qu'on faisait avant et pourquoi on ne pouvait plus le faire. On avait deux activités principales. La première, comme je l'expliquais, c'était un service d'animation dans l'entreprise. Ça s'apparente à de l'événementiel. Donc, on faisait des coachings, des événements, des programmes santé.
Donc, vous veniez dans les entreprises?
On venait dans les entreprises, on faisait bouger les gens, on les sensibilisait, on leur proposait des activités, que ce soit des coachings sportifs ou des journées bien-être ou des ateliers. Et ça, évidemment, avec le Covid, on ne pouvait plus le faire. Donc, on ne pouvait plus aller en entreprise. Et notre deuxième activité, donc dans la continuité de ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a activé les gens, c'est pour ça qu'on s'appelle Active Corner, c'est qu'on active et on pousse les gens à rentrer dans une mécanique de bien-être. Et du coup, ces gens-là, on va les accompagner auprès d'enseignes et partenaires. Donc, ce sont des professionnels du sport et du bien-être, des salles de sport, des studios, des spas, des grands événements sportifs, etc. Et du coup, on accompagne les collaborateurs auprès de ces enseignes. Or, avec le Covid, toutes ces enseignes ont fermé. Et du coup, quasiment toute notre activité a cessé du jour au lendemain avec le Covid et il fallait se réinventer. Donc oui, le Covid a été pour nous un grand transformateur.
Et du coup, alors comment vous avez fait? Comment ça s'est passé?
Alors souvent, en fait, les grosses transformations débutent toujours par des claques. Donc la première claque, évidemment, c'est de se rendre compte qu'on allait être impacté à titre personnel dans notre quotidien. La deuxième claque, elle est venue de notre plus gros client, ou un de nos plus gros clients aujourd'hui, qui est le groupe L'Oréal, donc notre client chez L'Oréal. Dès le deuxième, troisième jour de la crise, nous appelle, nous dit « Bon, ben, qu'est-ce que vous avez prévu? Comment vous pouvez nous accompagner ?»
Parce qu'eux voulaient continuer, en fait. C'était
absolument
très important pour eux.
Plus important que jamais. Je pense que L'Oréal a été un des tout premiers clients chez nous, en tout cas, à réaliser l'importance de rebondir vite et que l'accompagnement sur le bien-être des collaborateurs allait être absolument primordial dans ces premières semaines et ces premiers mois de crise. Et nous, on avait un petit module auquel on réfléchissait sur un module vidéo, mais qui était un peu dans les cartons. Et on se disait un jour, quand on aura le temps, on le fera. Exactement. Et là, c'était l'urgence absolue. Donc, on leur a dit, laissez-nous 10 jours et on aura quelque chose pour vous. Donc, on est très fiers de la réactivité qu'on a eue. En 2 semaines, on a proposé l'embryon de ce qui est aujourd'hui notre plus beau produit. Et un mois plus tard, on avait un produit complet, fini, et qui aujourd'hui s'appelle Active Corner Play. Aujourd'hui, on accompagne énormément d'entreprises avec une solution. Il y a 120 cours en direct tous les jours, il y a des conférences, des masterclass, de la VOD. Donc c'est un service très très complet de sport et bien-être qui accompagne les gens en télétravail chez eux et qui fonctionne très bien.
Donc un mal pour un bien au final.
Ça a été un transformateur à à une échelle qu'on n'imagine même pas pour nous. Je vous donne un dernier élément là-dessus. Notre stratégie en interne et vis-à-vis de nos investisseurs et de nos partenaires et de nos clients était une stratégie franco-française. Donc pour nous, c'était comment on anime des entreprises en France et comment on sollicite des partenaires sur le territoire français, des partenaires dont je parlais précédemment. Et la crise est venue et on a commencé à avoir des entreprises qui nous ont dit tu sais quoi, Yacine, nous on a des équipes en France, mais on a des équipes en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis. Ta solution vidéo, elle nous va très bien et on se rend compte qu'on fait des activités ensemble et maintenant on aimerait les faire avec nos équipes à l'international. Et du coup, on s'est retrouvés un peu malgré nous à nous lancer dans une activité internationale qu'on n'avait pas anticipée. Et voilà, c'est pour ça que je dis la crise a été. Je pense que quand on sait rebondir et saisir les opportunités, ouais, ça peut vraiment être un accélérateur et ça a été un accélérateur énorme pour nous.
Bah, c'est souvent quand on sort de sa zone de confort, alors au début évidemment c'est compliqué, ouais, mais qu'on a accès à de belles choses et de grandes choses. Là, ça a été le cas en tout cas pour vous.
On a la chance d'être assez petit pour pouvoir être extrêmement agile. Ouais. Et je pense qu'on aurait
été. Et ça compte, le fait d'être petit
Ça a été en tout cas très important pour nous. Je pense qu'il y a une certaine inertie quand on a des équipes d'une certaine taille, les décisions se prennent plus lentement. Moi, je travaillais dans une banque, une grande banque française, avant de monter ma boîte. Et ce qui est sûr, c'est que quand on fait face à une problématique, il y a une chaîne de décision qui est très longue. Et ce qui fait qu'on n'arrive pas à réagir. Nous, on a réagi en termes de jours.
C'est vrai qu'il y a... Ouais.
On a réagi en termes de jours, c'est-à-dire on n'a pas dit à nos clients on se reparle dans 6 mois, on leur a dit on se reparle dans 10 jours.
Il y a une règle, c'est plus réactif en fait.
Totalement.
Ça s'enchaîne plus. Totalement. Aujourd'hui, du coup, vous parliez de petite taille. C'est combien de collaborateurs Active Corner
aujourd'hui? On est 10 en interne. Active Corner externalise sa tech, donc on a 4 développeurs en externe, donc c'est des partenaires à nous, mais ils font pas partie des équipes.
Des prestataires en fait.
C'est plus que des prestataires, ce sont des associés.
D'accord.
Ce sont des gens qui sont intéressés au capital, donc ils sont absolument investis dans notre projet et ils nous soutiennent depuis le premier jour. Ils sont 4. Nous, on est 10. Donc, c'est une équipe de 14. On considère qu'on est une équipe de 14 personnes, même s'il y a 4 personnes qui sont offshore, donc qui ne sont pas en France. Ce sont des Français qui sont installés au Vietnam et qui nous permettent de développer. Ça, c'est un modèle qui me séduit beaucoup parce que quand j'étais justement dans cette fameuse banque, j'avais appris cette technique du ce qu'on appelle du follow the sun, c'est-à-dire que des équipes sont sur plusieurs sites en même temps et ça assure une certaine continuité. Donc, c'est ce qui se passe avec mes équipes aujourd'hui. J'ai des développeurs qui sont au Vietnam. Donc nous, on a des besoins, on exprime des besoins, on remonte des bugs, etc. Et eux, quand nous, on dort, eux, ils sont en train de réparer les bugs et avancer sur notre projet. Et quand on arrive le matin, ça a avancé et tout est presque prêt.
Donc ça ne marche pas dans tous les pays, en revanche. Donc il faut bien choisir les sites.
Voilà, c'est ça.
C'est quand on dort, voilà. Le Vietnam, c'est vrai qu'ils ont un temps d'avance sur nous. Alors, au début, vous étiez seul. Comment ça s'est passé? Déjà, avant de créer, avant de devenir entrepreneur, donc vous avez travaillé dans une banque, mais vous étiez sportif de haut niveau. Vous faisiez quel sport?
Du basket.
Basket?
Là, je ne sais pas si on le voit, mais je fais presque 2 mètres.
Oui, c'est vrai que vous êtes très, très grand.
On se pose toujours la question, est-ce qu'on est grand, donc on fait du basket, ou est-ce qu'on fait du basket, donc on devient grand? On ne le saura jamais.
D'accord, c'est la poule avant l'œuf, on ne sait pas.
Exactement, on ne le sait pas, mais en tout cas pour moi, je pense que voilà, ça a plutôt bien fonctionné. Donc en effet, j'étais sportif de haut niveau. Ouais. J'étais en équipe nationale algérienne jeune quand j'étais petit. Mon rêve, c'était toujours d'être le premier Algérien qui joue en NBA. Donc j'ai tout fait pour atteindre ce rêve. J'ai joué en France, puis je suis parti jouer en université aux États-Unis.
D'accord,
donc,
génial.
En NCA,
ça a dû être incroyable de vivre ça.
Un rêve absolu. Et voilà, donc bon, je vous épargne ensuite mes péripéties, mais qui m'ont fait finalement jouer à niveau pro, semi-pro, un petit peu partout en Europe. Et ensuite, de retour en France, j'ai commencé à travailler pour BNP Paribas. Suite à une blessure, j'ai décidé de prendre un job un peu plus, sécurisant. Mm-hmm. Et voilà, en fait, c'est quand j'ai rejoint la banque que j'ai commencé à espérer d'une certaine manière garder cet équilibre entre mon activité professionnelle, mais aussi une activité physique qui était vraiment dans mon ADN.
Que vous faisiez à côté, du coup
Et que je faisais à côté, mais si on doit parler de la genèse, parce qu'on parlait de la genèse de l'entreprise, d'Active Corner, c'était justement ma lecture de la proposition de valeur du grand groupe. En termes de sport et de bien-être pour ses collaborateurs. Il y avait pléthore d'offres, il n'y avait pas de souci là-dessus. Donc il y avait pas mal de propositions de valeur au sein de la banque. Mais ces propositions de valeur, étaient explosées et distribuées autour de plusieurs services. Donc si je voulais savoir ce qui m'était proposé, il fallait que j'aille demander peut-être à mon CSE, donc ce qui s'appelait un CE à l'époque.
Oui.
Ou sinon, il fallait que j'aille voir l'association sportive. il y avait une association sportive dans la banque où il fallait que j'aille voir les équipes d'animation de ma business unit au sein de ma banque. C'était assez vieillissant, il n'y avait pas une proposition digitale. Donc moi, je me disais, je devrais avoir un site ou une app qui me permet de me dire, voilà, aujourd'hui, j'ai une journée de massage.
Parce que là, c'était à vous de vous rendre dans tous les départements,
exactement,
de faire les démarches.
Exactement. Et c'était la Croix et la Bannière, par exemple. À mon CSE, à l'époque, il y avait des offres préférentielles auprès de 4 enseignes. Donc si j'allais à 4 enseignes, c'était des salles de sport, hein, des enseignes de salles de sport, j'avais des tarifs préférentiels, donc j'avais des avantages. Mais si je décidais d'aller à une cinquième, une sixième, ou celle qui est dans mon quartier, etc., j'avais plus d'avantages, ouais. Et je ne trouvais pas ça logique. Donc voilà, il y avait un problème d'échelle, il y avait un problème de digitalisation, d'innovation. Et il s'est passé deux choses. La première, c'est que j'étais plutôt frustré par la proposition de valeur. Il y avait une deuxième chose, c'est que je n'étais pas aligné.
Donc à titre personnel, en fait.
À titre totalement personnel. Ouais.
Donc, vous êtes dit, là, il y a un problème quand même.
Il y a un vrai problème. Et surtout, c'est un problème que j'ai envie de résoudre parce que ça me touche dans mon ADN, dans mon besoin qui est de pratiquer du sport et d'accéder d'une certaine manière au sport et au bien-être de manière plus simple. Et je voulais revenir à mes premières amours, donc je me suis dit, la banque, c'est plus fait pour moi en tout cas, et j'ai vraiment envie d'entreprendre. Voilà comment... Longue réponse, pardon, mais c'est comme ça que ça
commence. Non, réponse tout à fait convenable. Mais alors, du coup, parce qu'on a tous des idées, tout le monde a des idées en fait, il y a des personnes plus visionnaires que d'autres, mais peu de gens passent à l'action.
Ouais.
Et combien ça vous a pris de temps à partir du moment où vous vous êtes dit, bon, il y a un problème, voilà, tiens, je vais peut-être faire quelque chose, est-ce que je pourrais faire ? Ah bah tiens, je vais le faire. Combien de temps ça a pris en fait ?
Je dirais que ça m'a pris 2 ans. Ça m'a pris 2 ans pour des raisons avant tout purement techniques. Donc comment sortir de la banque, faire une sortie propre, pas juste claquer la porte sans réfléchir. Donc ça, c'était important. Et ensuite, une idée, comme vous dites, tout le monde a des idées. Donc ça, c'est pas un souci, mais il faut structurer l'idée.
Il y a des idées qui sont meilleures que d'autres aussi. Hein.
C'est ça. Je suis pas sûr que l'idée soit si importante. Premièrement, parce que dans notre exécution, finalement, notre projet final se trouve très loin de notre idée initiale.
Ah oui ?
Très très loin. Très souvent, on pivote 50 fois, on a ce qu'on appelle pivoter, c'est-à-dire changer un petit peu de proposition de valeur dans l'entreprise.
Pourquoi ? Parce que vous vous rendez compte que finalement, ce n'est pas la bonne stratégie, ça coûte trop cher.
Alors, très, très souvent, en tout cas en ce qui me concerne, mais j'ai l'impression que c'est le cas, très souvent, donc une idée vient d'une constatation, souvent en fait à titre personnel.
Qui nous touche très souvent.
Qui nous touche. Après, elle nous touche nous d'une certaine manière, on a notre sensibilité. C'est pas la même pour tout le monde. Donc, ce qu'on pense être un besoin absolu pour nous ne l'est pas vraiment exactement pour notre voisin. Donc, il faut commencer à confronter un petit peu son modèle, il faut en parler. Alors, il y a une idée préconçue qui est de dire, j'ai une idée incroyable, il faut que j'en parle à personne,
je ne veux pas
qu'on me copie et je veux me lancer. Ça, c'est, je pense que c'est bon, on est revenu de cette idée-là. En fait, l'idée ne vaut rien. Quand vous avez une idée, il y a très certainement une centaine de personnes,
au moins
en France, et certainement des gens qui l'ont exécuté aussi. Donc en fait, souvent dans les cercles entrepreneurs, ce qu'on dit, c'est ce qui est important, c'est l'exécution, et pas forcément l'idée en soi. L'idée doit être bonne, évidemment, mais ce qui est vraiment, vraiment important, c'est l'exécution.
Et alors, est-ce que vous avez rencontré, par exemple, des gens qui avaient la même idée que vous ?
Alors, on commence à faire de la veille. Donc, quand on a l'idée, on commence à regarder. Si on trouve qu'il y a 10 boîtes qui font ça, qui le font très bien, et qu'on n'a aucune différenciation, autant pas y aller.
D'accord.
Moi, je suis arrivé à un moment où il y avait beaucoup de gens qui avaient des idées plus ou moins similaires. Il y avait un site, pour vous donner juste une petite indication, on parlait de pivoter et changer tout le temps. Moi, quand j'ai commencé au tout début, l'aspect communautaire était presque plus important pour moi que l'aspect service. C'est-à-dire que je me disais, OK, c'est bien d'accéder facilement à l'activité, mais c'est tout aussi important pour moi de trouver des collègues ou trouver des gens qui vont pratiquer cette activité avec moi. Et j'avais mis une emphase très forte sur l'aspect communautaire et beaucoup moins importante sur le service. Première erreur, parce que moi, c'était important pour moi.
Mais pas forcément pour les autres.
C'est ça. Donc, quand j'ai confronté ça, donc, il y avait une application, un site à l'époque, qui proposait justement de la mise en relation entre sportifs, parfois sur des verticales... sport pur. Donc, les joueurs de tennis qui cherchent d'autres joueurs de tennis, ça existe depuis très longtemps.
Bien sûr.
Ça n'existe pas forcément sur les autres activités. Pour le basket, ce qui me concernait, ça existait à l'étranger, mais pas en France. Donc, et moi, je voulais faire un truc généraliste qui concerne tout le monde, mais j'étais énormément sur la communauté. Et ça, c'était ma première erreur. Le besoin à l'époque, en tout cas, on est en train de parler de 2012, 2011.
Ça commençait à l'époque, en
exactement.
Entreprise.
Ça commençait.
Le début.
C'était le tout début, ouais. Et du coup, il fallait vraiment confronter son idée. Et voilà. Donc l'idée avant, ça prend du temps, il faut la confronter, il ne faut pas avoir peur de la partager, il faut vraiment...
Et vous l'avez partagée avec qui alors ?
Tout le monde.
Comment ça s'est passé ? Quelle est la première personne à qui vous avez parlé de ce projet ?
La première personne à qui j'ai parlé de ce projet, je pense que c'était mon frère. Donc mon frère est quelqu'un, évidemment, que j'admire beaucoup, quelqu'un qui a vraiment fait une très très belle carrière, qui travaille aujourd'hui chez Google, mm-hmm. Qui est directeur d'industrie. C'est peut-être la personne la plus brillante que j'ai rencontrée de ma vie, et c'est objectif pour le coup. Et du coup, je lui ai exposé mon idée en disant « voilà ce que je veux faire ». Et déjà, lui-même avait 10 contre-arguments pour dire « ah, mais t'as pensé à ça, mais comment tu vas faire ça, etc. » Donc, confronter l'idée est vraiment un enrichissement parce que les feedbacks nous permettent de structurer. Et du coup, là où on arrive à répondre aux questions, on se dit « ben, c'est solide, la question m'a été posée 10 fois et ça tient la route ». Et parfois, on dit « ah, mais il m'a posé telle question, mais je suis pas sûr en fait que ça fonctionne ». Et voilà, à partir de mon frère, j'en ai parlé à chaque personne que j'ai rencontrée depuis.
Ouais. Pour avoir quoi ? Des idées, pour savoir des conseils ?
Des retours, des conseils, surtout un intérêt. je pense que le plus important, c'est de dire si je te mettais ça dans la main, est-ce que tu l'utiliserais ? Et si la personne me dit non, pourquoi ? Et si la personne me dit oui, mais plutôt comme ça, ben tout ça, ça enrichit ma réflexion. Et après, il faut quand même garder une ligne directrice. On a son idée, on a ses certitudes, non, mais peut-être oui. En tout cas, la direction qu'on veut prendre. Et ensuite, on essaye de naviguer un peu à vue selon les éléments qu'on récupère. Donc, s'il y a un élément qu'on nous dit systématiquement, il faut le prendre en compte. Et si on entend un truc une fois, on se dit, tiens, il y a peut-être une idée là, je me le mets de côté. Et on verra plus tard.
Et donc, alors, vous en parlez à votre frère, vous en parlez autour de vous. Et après, quelle a été la toute première démarche ? Comment ça s'est passé après ?
La toute première démarche ?
Est-ce qu'il y a déjà eu du temps entre le moment où vous avez commencé à en parler ? Est-ce que ça a dû mûrir encore le projet ou vous êtes lancé tout de suite ?
Alors, je suis une personne assez obsessive. Donc, en fait, quand j'ai une idée en tête, et surtout quand j'y crois, j'y vais à fond. Donc, non, ça occupait mes nuits. Donc, la journée, je travaillais à la banque. Et le soir, je bossais sur mon projet. Donc, je faisais des slides, je commençais à faire des pilotes et des choses comme ça. Je pense que le déclencheur, ça a été déjà la veille, m'a conforté dans le fait qu'il y avait une place sur le marché. Et la deuxième chose, c'est que je me suis dit...
Ça ne vous a pas découragé là, de voir qu'il y avait d'autres entreprises qui faisaient ça ? Vous avez dit, il y a quand même ma place, c'est pas exactement ce que je veux faire moi.
Je pense que je voyais que le marché était naissant, donc je savais qu'il y avait une place sur le marché, donc ça m'a beaucoup encouragé. La deuxième chose, c'est que les produits que je voyais sur le marché, c'est pas un jugement de valeur, hein, mais on était au début, donc les produits n'étaient pas top. Ouais. Je voyais que tout pouvait être fait en termes d'expérience.
C'était le moment en fait de faire.
Exactement, c'était le moment de le faire. Et la troisième chose, et là je pense que ça revient à la personne, j'ai toujours essayé d'appliquer les valeurs et l'état d'esprit que j'ai eu dans le sport, dans mon expérience entrepreneuriale. Je suis quelqu'un de très compétitif dans le sport, et du coup c'est comme ça que je l'ai vu comme une compétition. Je me suis dit, si je vais dedans, c'est que j'ai envie de faire quelque chose de bien, et j'ai envie de sortir du lot. Donc c'est un peu cet état d'esprit-là que j'ai apporté dans ma vie entrepreneuriale, en tout cas.
Donc, vous viviez la journée votre boulot chez BNP.
Ouais.
Le soir, des slides, vous dormiez à quelle heure, du coup ? Pas beaucoup.
Je dormais autour de 2-3 heures du mat et je me réveillais à 7 heures.
D'accord. Vous avez tenu combien de temps comme ça ?
Je continue à tenir comme ça.
Ah. Non, mais maintenant, vous ne travaillez plus chez BNP.
Non, mais je continue à bosser la nuit. Ça m'arrive très souvent encore. Je pense que... À un moment, je pense qu'il y a un changement dans l'état d'esprit de l'entrepreneur. Des fois, c'est lié à un succès commercial. Ouais. Des fois, c'est lié à une grosse levée de fonds où on pense qu'on peut un peu lever le pied. Et moi, je n'ai pas encore réussi à changer le switch. Je suis toujours en mode entrepreneur à fond. J'ai toujours l'impression que j'ai 1000 choses à faire, qu'il y a 1000 choses à réaliser. Donc je n'ai pas encore trop levé le pied. Mais tout ça pour dire, oui, au début, c'est compliqué parce qu'il faut accepter le sacrifice. Il faut accepter le challenge, surtout quand on part avec rien. Moi, je n'avais pas grand-chose.
Ça s'est fait alors, le début ? Qu'est-ce que,
alors, le début, c'était de se dire, le cœur de ma proposition de valeur, même si je ne comptais pas monter une boîte tech à proprement parler, il n'y a pas d'intelligence artificielle, il n'y a pas de choses compliquées dans ce qu'on fait, d'un point de vue technologique. Mais par contre, la colonne vertébrale de mon produit était quand même une plateforme. Donc, il fallait que je puisse développer ce qu'on appelle dans l'univers des startups, un MVP. Donc un MVP, c'est un minimum viable product, donc un produit que je peux montrer et qui puisse convaincre mes tout premiers clients. Et moi, j'avais fait de l'IT, donc j'avais fait de l'informatique, mais je n'avais jamais développé une plateforme. Et où je passais 6 mois, 1 an à me réapprendre à faire une plateforme, je perdais beaucoup de temps, où j'essayais de m'associer. Et ou sinon je cherchais un prestataire. Mais
C'est souvent ça qu'il faut faire aussi. Ouais.
Oui, mais quand on va, à l'époque, bon, les agences étaient bien développées, donc on allait dire, bon, voilà, je sais exactement ce que je veux et je veux faire cette plateforme-là. Le premier devis qu'on m'a fait était, je me souviens très bien, de 180 000 euros.
Ah oui.
Pour construire cette plateforme. Exactement. Donc,
quand on commence, oui, ça peut repousser.
C'était un petit peu compliqué. Ouais. Donc je me suis dit, non, c'est pas la bonne stratégie, je vais essayer de trouver une agence qui croit en moi, qui croit au projet.
Un associé, donc.
Un associé ou une agence associée. Donc au début, c'est vrai que j'ai parlé à des développeurs individuellement. Et après, je me suis dit, oui, mais individuellement, je vais avoir besoin d'un développeur back-end, enfin, quelqu'un qui va coder, quelqu'un qui va me faire le design, quelqu'un qui va me faire les bases de données, etc. Et je me suis dit, en fait, j'ai besoin d'une équipe et je n'ai pas les moyens d'une équipe. Donc, comment avoir une équipe sans avoir les moyens de la payer?
Et du coup, c'est ça.
La confiance. Et surtout, une équipe qui accepte, une agence en tout cas, qui accepte de se lancer avec moi.
Ouais. Qui croit au projet.
Exactement. Donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai trouvé une super agence qui s'appelle Sutunam. C'est une agence qui est basée à Lyon. Et voilà, c'est une agence qui a un super mindset. C'est des jeunes entrepreneurs. Et du coup, je leur ai dit, voilà, j'ai pas beaucoup de sous. Par contre, si vous croyez au projet, je vous cède du capital et vous développez la plateforme avec moi. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai coché la première case. J'ai trouvé la super agence qui était capable de m'accompagner et qui, en plus, avait une succursale au Vietnam.
Et cette agence, combien de temps pour la trouver?
Ça m'a pris, je sais pas, peut-être 2 mois, 2-3 mois.
Et vous avez essuyé des refus, j'imagine?
Énormément. Ouais. Tout le reste des agences me disaient, non, tu nous payes, on ne veut pas prendre de risques, on prend 0 risque et tu nous payes. Et si ta boîte, elle coule dans 3 mois, nous, on ne se porte pas garant. Mmh. Et Sutunam a pris tous les risques avec moi. Donc jusqu'à aujourd'hui, je suis très, très reconnaissant et très heureux de les avoir croisés. Et ils continuent à développer aujourd'hui notre tech. Et ils ont cette succursale, cette deuxième agence au Vietnam. Et moi qui venais de BNP Paribas, où j'avais vu les bénéfices du Follow the Sun, c'était parfait pour moi.
D'accord. Et alors, depuis, donc, ça a pris de l'ampleur. Ouais. Vous avez recruté des collaborateurs. Ouais. Des obstacles que vous avez rencontrés? Alors, les refus des agences
Refus des agences. Alors, les gros challenges, refus des agences, trouver ses premiers clients. Donc, on n'a pas de client. Le premier client qui doit dire oui, c'est toujours très compliqué. Oui. Donc ça a été assez compliqué. On a eu une première agence. Puis, on a eu un premier business angel qui a investi. Donc, j'ai commencé à rencontrer du monde parce que je parlais de mon projet à tout le monde, les gens parlaient de moi un petit peu. Mm-hmm. Donc, j'ai été présenté à un premier investisseur qui m'a dit, ton truc, j'y crois, change ça, ça et ça. Et je pourrais te faire rentrer chez des premiers clients. Donc, premier challenge, trouver les premiers clients. Une fois qu'on a trouvé les premiers clients, il y a des exigences qui viennent avec. Donc, il faut se financer. Il faut embaucher parce qu'au début, on bricole tout seul et
on
fait croire qu'on est une équipe de 10 alors qu'on est une équipe de 1. Et donc voilà, il faut recruter. Pour recruter, il faut des sous. Pour avoir des sous, il faut lever des fonds. Pour lever des fonds, il faut avoir des clients. Donc on parlait tout à l'heure de cercle vertueux ou cercle vicieux. Là, on est vraiment dans le cercle vicieux. Donc voilà, il faut se battre. Et c'est ce qui s'est passé. On a fait une levée de fonds en 2019, donc avec un fonds d'investissement, mais parce qu'on avait eu L'Oréal, IWG, Google.
Alors L'Oréal, comment ça s'est passé, ce beau client?
L'Oréal, ça a été une belle rencontre et un concours de circonstances. Donc j'avais rencontré une personne qui avait démarché L'Oréal et qui avait parlé aux bonnes personnes chez L'Oréal pour leur dire, voilà, moi je propose tel service qui n'avait rien à voir avec notre activité. Et la cliente chez L'Oréal a répondu, nous ça ne nous intéresse pas, mais par contre on cherche une app qui nous faciliterait l'accès au sport. Si vous connaissez quelqu'un, présentez-nous. Et du coup j'ai eu une présentation, je me souviens encore comme hier du coup de fil que j'ai eu avec la cliente qui est aujourd'hui toujours mon interlocutrice chez L'Oréal. Et voilà, ça a été juste le match parfait, leurs besoins, ce qu'on développait. Et ça s'est fait très, très vite en termes d'accord. Après, pour déployer le produit, il y a tout un process chez L'Oréal qui est normal pour un groupe de cette taille. Mais voilà, et on est rentré chez L'Oréal comme ça.
C'est beau. Hein. Ouais, c'est très, très beau.
Beaucoup d'opportunités.
Vous êtes fier de ça?
Extrêmement fier. Ouais. Ma plus grande fierté, c'est la confiance qu'on m'a témoignée à chaque étape de nos partenaires. Donc la première salle de sport, le premier studio qui m'a dit « Ok, j'accepte de me mettre sur ta plateforme », du premier business angel qui m'a dit « Écoute, je mets quelques sous chez toi parce que je crois en toi », du premier client qui nous a dit « Vous êtes petit, on est grand, mais c'est pas grave, faites vos erreurs et grandissez chez nous », des partenaires, donc je pense à IWG, je suis arrivé tout seul dans un Spaces il y a 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus. Et aujourd'hui, je suis toujours chez Spaces avec mon équipe. Donc ça, c'est aussi IWG qui nous a permis de grandir en tant que partenaire et en tant que client. La confiance, plus grosse fierté et l'équipe aussi, parce que je ne serais pas aujourd'hui ici si je n'avais pas réussi à monter une équipe et que cette équipe aujourd'hui soit performante et solidaire.
Et aujourd'hui, combien de clients vous avez?
Aujourd'hui, on a dépassé le seuil des 50 clients. Et pour vous dire, la plupart des clients qu'on a signés, enfin la plupart, une bonne partie des clients, on les a signés pendant le Covid.
D'accord.
Et c'est des clients, certains d'entre eux, même beaucoup d'entre eux, on ne les a jamais rencontrés.
Ah oui, c'est fou. Hein. Mais c'est vrai que la crise là, a ouvert, j'ai l'impression qu'on a envie de verdure, mais on a envie de prendre soin de soi aussi.
Ouais.
On a envie de faire attention, on se rend compte des choses importantes.
Le bien-être est redevenu central. Ouais. Nous, quand on pitchait des entreprises à l'époque, il y avait toujours ce terme QVT. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, qualité de vie au travail. Chez certains, il avait beaucoup de sens. Chez d'autres, c'était juste une façade. Et nous, on avait beaucoup de mal à convaincre qu'il fallait investir dans le bien-être des collaborateurs, qu'il fallait des budgets, qu'il fallait du temps, etc. Beaucoup d'entreprises, celles que j'ai citées jusqu'ici, étaient sensibles. Beaucoup d'autres nous disaient... Moi, j'offre un petit coaching ou j'offre des petits déj le matin et c'est suffisant. Et avec la crise, les boîtes ont commencé à se dire « Attends, les gens, quand ils ne sont pas bien, ma boîte, elle ne tourne pas. Quand les gens ne se parlent pas, ma boîte, elle ne tourne pas. Quand les gens sont en mauvaise santé, ils commencent à poser des arrêts maladie parce que trop sédentaire, trop en face de l'écran, ma boîte va mal. » Et du coup, aujourd'hui, les questions ne se posent même pas. C'est-à-dire aujourd'hui, on n'a pas de friction quand on expose l'importance de notre action. On peut avoir des discussions sur des budgets, sur le timing de mettre la solution en place, jamais sur la nécessité de prendre soin de ses collaborateurs.
Et du coup, il y a encore beaucoup d'entreprises, selon vous, qui ne font pas assez attention à leurs employés ?
Alors, oui, mais pas forcément...
Mais c'est en train de changer.
C'est en train de changer. Et celles qui ne font pas attention, je pense que la plupart d'entre elles, ce n'est pas du tout par malveillance ou quoi que ce soit. Beaucoup d'entreprises ont été violemment touchées par la crise.
Ça aussi, ouais.
Et l'entreprise, s'il n'y a pas d'activité économique, l'entreprise disparaît. Donc je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui ne l'ont pas encore fait. Donc pour nous, c'est plutôt un bon indicateur qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Par contre, beaucoup de boîtes souhaiteraient le faire. Nous, on a beaucoup de boîtes qui nous disent « on aimerait, là juste, ce n'est pas le bon moment, mais dès qu'on peut, pas de problème, on fait appel à vous, etc. » Donc oui, il reste beaucoup de chemin à faire dans beaucoup d'entreprises.
Et pour terminer, quels seraient les conseils que vous donneriez à des futurs entrepreneurs qui hésitent à se lancer, qui n'osent pas, qui ne sont pas sûrs? Qu'est-ce que vous leur diriez?
Alors, moi, c'est un peu contre-intuitif. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Il y a le fantasme parce que depuis des années, on nous bassine à coups de start-up qui lèvent des millions, de boîtes américaines qui cartonnent, etc. Ce n'est pas la réalité. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de start-up qui disparaissent que de start-up qui réussissent. Donc ça, c'est une réalité. Monter une boîte, ça demande des sacrifices.
Oui, je crois qu'il y a 40% des start-up non accompagnées qui disparaissent et 20% des start-up accompagnées.
Il y a différentes phases, mais même dans des start-up qui, parfois, je ne citerai pas, mais j'avais un financier qui participait aux levées de fonds des start-up. Il y avait des start-up qu'on appelle maintenant des scale-up, donc c'est des start-up qui ont déjà levé beaucoup de fonds, il y a des centaines de collaborateurs. Parfois, le financier se dit, on était à une semaine de ne pas pouvoir payer tout le monde. Et on a fait une levée de 50 millions qui nous a permis de nous reprojeter, etc. Mais en fait, les boîtes comme ça sont en fragilité à plusieurs phases de leur vie. Donc tout ça pour dire qu'on nous vend un peu ce fantasme de la vie de start-upper, c'est exceptionnel, etc. Ça vient avec beaucoup de sacrifices. Donc ça, il faut aussi le réaliser. Beaucoup de remises en question. Donc on vient avec nos égos, nos idées, etc. Il faut savoir se remettre en question.
On est confronté à soi-même, en fait. Et je crois que c'est le pire.
Exactement. On est confronté à des questions RH parce que souvent, les start-upers, parfois, ils ont des expériences managériales avant, mais parfois pas du tout. Donc, c'est un métier. Il ne faut pas se leurrer. Donc, je n'ai pas envie de vendre du rêve à des gens qui veulent se lancer. Je leur dis, réfléchissez bien, parlez. Donc, il y a quelque chose qui est vrai. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours impressionné, c'est la générosité des entrepreneurs. Quand j'étais au tout début, j'ai écrit ou j'ai appelé ou j'ai essayé de contacter des gens qui avaient monté des boîtes, qui avaient déjà monté des super boîtes. Et si mon approche était de dire « je suis en train de réfléchir à lancer ma boîte, est-ce que vous pourriez me conseiller ?» Quasiment systématiquement, ils m'accordaient du temps.
Ah oui.
Ouais. C'était incroyable. J'ai le patron de showroom privé, le patron de...
Ah oui, qui est une très, très belle entreprise.
Très belle boîte. Il y a plein d'événements où ces gens-là sont hyper accessibles. Donc, vous pouvez aller parler au patron des plus grosses startups françaises. Vous pouvez les rencontrer. Bon, là, c'est un peu difficile avec la Covid, mais en temps normal, vous avez au moins 10 occasions dans l'année de les approcher, de leur dire voilà qui je suis, voilà ce que j'ai envie de faire. Et ils vont prendre le temps de vous accompagner.
Donc, ramasser les informations, en fait.
Exactement.
En prendre au maximum et puis faire le point après avec soi-même.
Exactement.
Parce qu'on est capable de faire ça, se projeter.
Absolument. Mais une fois qu'on a pris en compte ces éléments-là et qu'on est prêt à se lancer, c'est une expérience qui est extraordinaire. C'est une adrénaline de tous les jours. C'est des montagnes russes, mais ça fait partie aussi de la vie de l'entrepreneur. Mais il ne faut pas juste aller la fleur au fusil en se disant je vais monter une boîte, je vais lever 10 millions, je vais cartonner, etc. Ça, c'est pas la vraie vie. Quoi.
Des nuits de 3 heures et
celle-là, il y en a beaucoup. Des nuits de doute, des nuits de peur, des nuits de stress. Ça, c'est le quotidien pendant des années et des années. Les boîtes qui se créent et en 2 ans, elles cartonnent, ça, c'est encore une fois, ça, il en existe, mais c'est l'exception.
Ouais. Donc, sont peu, surtout. Les échecs, c'est vrai qu'on n'en parle pas.
Ouais. Les échecs, il y en a beaucoup, on n'en parle pas, on n'encourage pas l'échec. Et une deuxième chose, je prends l'exemple de Blablacar. Et ça, les fondateurs de Blablacar le disent très bien. On a l'impression que c'est une boîte qui est sortie du chapeau et qui est devenue une boîte internationale. Blablacar, ça a mis 10 ans.
C'est vrai que c'est tellement simple. En plus, on se dit, mais tiens, tout le monde aurait pu le faire, c'était facile, etc. Mais en fait, non, il y a tout un travail derrière.
L'exécution. C'est très, très... Enfin, je ne vais pas dire que c'est très compliqué, non, mais ce n'est pas simple. Ouais. Ce n'est pas simple, il y a un travail derrière. Et Blablacar, c'est 10 ans avant de décoller. Et Blablacar, je vais peut-être dire une bêtise, il ne faudra pas me citer là-dessus, mais je crois qu'ils ont embauché leur premier salarié au bout de 3 ou 4 ans.
D'accord.
Donc, ils ont mis beaucoup, beaucoup de temps avant d'avoir la moindre
traction. Tout prend du temps, en fait, quand on fait les choses soi-même.
Exactement. Donc, les success stories de 2 ans, il en existe. C'est l'archi-exception. Et la réalité, il faut bosser très dur, beaucoup d'heures et espérer que ça marche.
Eh bien, merci beaucoup, Yacine Chiki. Je rappelle que vous êtes président et fondateur d'Active Corner. Et puis, on va aller voir votre site, du coup, votre site internet.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Bérénice.
Merci.
Objectif Startup, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Cowork La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.